Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Que ferions-nous sur Terre sans elle, se demandait la romancière Vita Sackville-West. Elle, c'est la duchesse du crime, la créatrice d'Hercule Poirot et de Miss Marple, l'une des auteurs les plus lues au monde et qui séduit toutes les générations. Alors qu'elle décrit un monde enfui, parfois jugé conservateur, Agatha Christie. Comment expliquer la magie de ses romans et nouvelles, même lus et relus 10 fois? Pourquoi sa lecture reste un refuge en cas de coup de mou? Comment expliquer le plaisir de lire Mort sur le Nil ou La Maison Biscornue, l'un de ses chefs-d'œuvre? Nous verrons quels sont les grands thèmes de son œuvre, souvent des passions tristes, l'envie, la jalousie, le désir de vengeance, le besoin de dominer et d'humilier, la banalité du mal qui agite des familles bien sous tout rapport. Les relations familiales sont présentes dans plus de 50 romans sur les 66 publiés. La lecture d'Agatha Christie est idéale en ce moment, se délecter de crimes élégamment mis en scène au chaud avec une bonne tasse de thé ou de chocolat. Si vous aimez lire Agatha Christie comme votre serviteur, racontez-nous pourquoi au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, à lire et BI, grand bien vous fasse.
Pour le major porteur, madame, est-ce que vous ressentez aussi de la peine?
Quoi?
Le major s'est suicidé ce matin.
Oh.
Il a laissé l'intégralité de son pot de vin à un serveur qu'il connaissait à peine. C'est l'acte d'un homme totalement désespéré par sa propre faiblesse et sa malhonnêteté.
Quel pot de vin?
Vous n'avez pas offert au major porteur 100 livres pour qu'il reconnaisse le corps de votre frère comme étant celui de Robert Andoré?
Qu'est-ce que vous racontez?
Alors, qu'avez-vous pensé, madame, quand le major l'a affirmé? Un mensonge grossier qu'il ne pouvait pas se résoudre à devoir répéter sous serment au tribunal.
Hercule Poirot, interprété par David Suchet avec la voix de Roger Carrel. Bonjour Marie-Hélène Bellac.
Bonjour.
Vous êtes historienne et vous avez publié chez Perrin une biographie de référence, Agatha Christie, Les mystères d'une vie. Bonjour François Rivière.
Bonjour.
Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes d'Agatha Christie. Vous publiez en poche aux éditions du Masque Agatha, es-tu là, avec Nicolas Perge. On vous doit également Agatha Christie, la duchesse de la mort. Bonjour Violaine Chivot.
Bonjour.
Vous êtes la directrice éditoriale des éditions du Masque, les éditions du Masque, éditeur historique d'Agatha Christie. Hein.
Tout à fait.
Bonjour. Et vous publiez un recueil de nouvelles à lire bien au chaud, Agatha Christie, sous la glace, des nouvelles qui se passent notamment au moment de Noël. Bonjour Sina Ferchak.
Bonjour Ali.
Écrivaine, vous publiez un essai salué par la critique, La vérité tue, Agatha Christie et la famille, chez Philosophie Magazine éditeur. La vérité tue, dans les deux sens du terme. Hein.
Oui, la vérité du verbe taire qui est tue et la vérité qui tue.
Alors, Agatha Christie est née à Torquay en Angleterre en 1890. Elle est morte en 1976 à l'âge de 85 ans. À quoi ressemblait la famille d'Agatha Christie? Elle était originaire de quel milieu social? Marie-Hélène Bellac.
Oui, alors en fait, c'était une famille, d'aristocratie. Hein. Son père était rentier.
Américain.
D'origine américaine. D'ailleurs, il ne travaillait pas et il aimait aller au club, aller arbitrer les matchs de cricket. Le matin, sa petite fille venait le voir, il lui laissait la monnaie qui lui permettait d'acheter des objets pour sa maison de poupée. Sa mère était une femme typiquement victorienne, aurait dit Agatha, c'est-à-dire une femme d'intérieur, assez fragile, un peu fantasque, mais qui était heureuse avec ce mari, finalement, qui la comprenait très bien. Et puis, il y avait un frère et une sœur, plus âgé qu'Agatha, le frère Monty, qui avait fait les 100 coups, on n'avait jamais réussi à lui faire vraiment des études, et puis il était parti en Afrique construire un bateau, enfin c'est une histoire un peu à la fois malheureuse et curieuse, fantasque. Et puis la sœur, au contraire, la grande sœur Madge, qui impressionnait Agatha, la petite Agatha. Agatha, c'était celle qui traînait, on disait la lambine tout le temps, la dernière de la famille, et puis finalement qui s'est révélée le génie de la famille, disons les choses.
Alors, son nom de naissance était Agatha Marie Clarissa Miller. Comment est née sa vocation littéraire, François Rivière?
Je crois que Agatha Christie avait tout pour devenir écrivain, écrivaine, puisque petite fille solitaire, puisque son frère et sa sœur étaient plus âgés qu'elle, donc c'était la petite dernière qui vivait avec les parents dans une grande maison, dans un grand jardin, avec une gouvernante, et une maman surtout qui lui racontait des histoires. Donc déjà, elle engrangeait de la fiction, déjà rien que grâce à sa mère. Et puis elle en inventait elle aussi, elle inventait des jeux, elle inventait des personnages.
Très tôt.
Oui.
Très tôt, à l'âge de...
Oui, je sais pas, elle a appris. Alors déjà, elle a appris à lire toute seule. À l'âge de 3 ans, on a découvert qu'elle savait lire. Du coup, elle, je dis pas qu'elle s'est mise à lire à ce moment-là énormément, mais quoi qu'il y avait beaucoup de livres pour enfants en Angleterre de cette époque. Elle a inventé des histoires, effectivement. Bon. Et elle s'inventait des personnages mystérieux, etc. Elle se faisait peur. Bon, et puis, elle a lu. Alors, dès qu'elle est... Elle a un peu grandi, adolescente, elle a lu tous les classiques de l'époque victorienne, et il y en avait beaucoup, les auteurs qu'elle adorait, tout un tas de feuilletonistes, beaucoup de femmes qui écrivaient, qui ont écrit dans les années entre... Pendant tout le règne de Victoria, il y a eu énormément de romancières qui étaient, qu'on peut considérer un peu comme les pionnières du roman policier, en fait, qui écrivaient des histoires publiées en feuilleton, des intrigues compliquées, des histoires de famille, etc. Au fond, Agatha Christie n'a eu qu'à puiser là-dedans pour se faire un imaginaire et après inventer, elle, des histoires qui étaient beaucoup plus modernes, beaucoup plus liées à son à un public qui n'était plus le public victorien. D'une certaine manière, elle a un peu adapté tout ce qu'elle avait lu d'une manière très intelligente.
Marie-Hélène Bellac, est-il vrai que c'est sa sœur qui l'a mis au défi d'écrire un roman aussi palpitant que Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux? Oui. Agatha Christie qui lui aurait répondu: c'est juré, je le ferai et tu seras épatée.
Oui, absolument. Sa sœur lui a dit: écrire un roman policier, c'est très compliqué, très difficile. Et puis, Agatha, pendant la Première Guerre, se trouvait... elle s'était engagée d'abord comme infirmière volontaire et puis ensuite dans le laboratoire de l'hôpital de Torquay. Et là, au milieu de tous ces poisons, parce qu'elle s'est bien rendue compte que ces médicaments étaient aussi des poisons, d'ailleurs, elle le raconte, elle s'est dit, elle avait quand même des plages horaires où elle avait du temps. Et c'est là qu'elle a imaginé, effectivement, la mystérieuse affaire de Stills. Alors, Agatha aimait imaginer dans sa tête, elle aimait construire dans sa tête, parler. Elle disait même plus tard, elle se promenait dans la rue en parlant, tant pis si elle avait l'air d'une folle. Après, elle trouvait que mettre par écrit, c'était beaucoup plus douloureux, beaucoup moins amusant. Et finalement, sa mère l'envoyait dans un hôtel pour qu'elle finisse son livre, parce qu'on était dans une famille où tout le monde écrivait. Donc, elle a été très encouragée.
Sonia Fairchak.
Oui, elle était vraiment dans une famille d'artistes. Oui. Et Clarissa Miller avait l'air d'une femme tout à fait extraordinaire. C'est Madge qui disait...
Madge,
la grande sœur de l'Agatha Christie, qui avait 11 ans de plus qu'elle, et qui disait « Quand je ne veux pas que ma mère sache quelque chose, j'évite même d'y penser si elle est dans la même pièce que moi. » Et donc, cette mère hypersensible avait encouragé ses enfants à écrire, à peindre, à créer. Il y avait des hommes illustres qui venaient à la maison, Rudyard Kipling, Henry James, étaient des familiers de la famille, et dans son autobiographie, elle déplore, Agatha, de ne pas s'en souvenir très bien.
Et on y reviendra, la famille reste l'un des principaux carburants des romans d'Agatha Christie. François Rivière, le succès arrive rapidement?
Non, pas vraiment. Elle écrit effectivement sur les conseils de sa grande sœur un premier roman dans lequel elle imagine déjà elle met en scène Hercule Poirot qui lui a été inspiré en fait par la vision qu'elle avait à Torquay pendant la Première Guerre mondiale, puisque ça se passe pendant la Première Guerre, des réfugiés belges qui se promenaient dans la ville, pauvres réfugiés belges qui étaient obligés de venir se réfugier en Angleterre, et elle regardait ces personnages, notamment des messieurs un peu compassés, avec des grosses moustaches et des chapeaux melons. Et c'est ce qui lui a inspiré Hercule Poirot. Et donc, elle écrit un premier roman et elle l'envoie à des éditeurs, mais il s'est passé 5 ans avant qu'un éditeur daigne enfin lui répondre, lui dire que ça l'intéressait, et que, à condition qu'elle refasse la fin du livre, on pouvait la publier.
Et avec un contrat Léona, en plus.
Racontez-nous ce qui s'est passé le 4 décembre 1926, François Rivière.
Alors, le 4 décembre 1926...
Moment fondateur dans la vie d'Agatha Christie.
Oui, c'est vraiment le grand moment qui fait encore parler, qui pose encore plein de questions. Enfin, parce que c'est un événement qui est un fait divers, en fait. C'est quasiment un fait divers que la presse a beaucoup utilisé et mis en scène. Il faut donc savoir qu'en 1926, elle a perdu sa maman. Et que ça l'a dévastée parce qu'elle était très attachée à cette femme. Et elle apprend aussi, quelques mois après ou quelques semaines après la mort de sa mère, que son mari, le colonel Archibald Christie, a une maîtresse. Enfin, c'est lui qui lui apprend et lui dit qu'il veut divorcer. Donc là, double catastrophe. Elle s'accroche quand même, mais c'est son imagination en fait qui va lui permettre de trouver, non pas une solution vraiment, mais enfin de trouver quelque chose qui va lui permettre de pas se tomber comme ou de ne pas se suicider, ce qu'elle aurait pu faire. Hein. Elle aurait pu aussi mettre fin à ses jours. Elle décide de, et avec la complicité de sa meilleure amie, c'est qui est très important dans cette histoire, qui se prénommait Nan, qui venait elle-même de divorcer peu de temps avant, elle décide de jouer un sale tour à son mari, en fait. Et ce sale tour, c'est une disparition orchestrée, c'est-à-dire qu'elle part le soir ce fameux jour de décembre, au volant de sa petite voiture, elle arrête la voiture au bord d'un étang, elle part, elle va prendre le train, en fait, un train pour Londres, pour aller retrouver son ami, et après, le lendemain, elle partira dans une ville de cure du Yorkshire, Harrogate, où elle restera une semaine à peu près, enfin même un peu plus.
Sous le nom de la maîtresse.
Oui, tout à fait.
Elle s'inscrit voilà à l'hôtel sous le nom de la maîtresse de son mari. Bon, jusque-là, peut-être elle croit avoir accompli quelque chose de parfait, une intrigue, puisque c'est quand même son métier d'imaginer des intrigues, sauf que ça va un petit peu partir à volo et que ça va se retourner contre elle d'une certaine manière.
Marie-Hélène Bellac, sur cet événement fondateur de la vie d'Agatha Christie, cette disparition.
Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord sur la thèse de, elle avait voulu jouer un tour à son mari, mais elle a été complètement débordée, parce qu'en réalité, la presse s'en est emparée, on s'est aperçu que le mari était allé retrouver sa maîtresse, donc on a enquêté, pour la première fois dans une enquête, on a utilisé deux avions. Non seulement les gens sont venus avec des chiens, il y a des photos absolument impressionnantes de cette recherche qui a coûté cher à tel point que le Parlement, enfin la Chambre des communes, a demandé une enquête sur le coût de sa recherche quand on s'est aperçu que...
Et il faut rappeler qu'elle disparaît alors que son dernier roman, Le meurtre de Roger Ackroyd, connaît un très très grand succès en librairie. Sonia Fertschak.
Oui, on l'a suspecté d'avoir voulu faire un coup de pub, que son agent ait fait monter la sauce pour des raisons marketing. En fait, elle était sans doute totalement désespérée et effectivement, ça l'a complètement dépassée.
Violaine Chivot.
C'est une histoire complètement dingue, je trouve, qui est géniale. Et d'ailleurs, je trouve que François Rivière et Nicolas Perge en ont fait un livre savoureux. Parce que
Agatha et Tula.
Agatha et Tula, exactement, qui parle de cette disparition et qui ensuite imagine de manière fictionnelle ce qui s'est réellement passé, puisque Agatha Christie a ensuite prétendu à l'amnésie, n'a jamais voulu dire ce qui s'était passé. Et même dans son autobiographie, on ne sait pas, elle ne raconte pas, elle passe sous silence cet épisode de sa vie qui est quand même assez incroyable.
Alors, comment est née votre passion de lecteur, de lectrice pour Agatha Christie, Sonia Fertschak, la lecture d'Agatha Christie vous apaise. Adolescente en quête de mélancolie, vous vous précipitez sur l'un de ses romans et après 2 heures de lecture, vous vous sentez détendue. Et cet effet perdure à l'âge adulte. Hein.
Ah oui, encore aujourd'hui. Si j'ai un coup de cafard, je lis Agatha Christie. Et j'ai très longtemps pensé que j'étais la seule. Et en fait, en me renseignant, je me suis aperçue que cet effet-là, beaucoup de gens l'éprouvent. Et alors moi, je suis née. J'ai été initiée par Agatha Christie tout simplement parce qu'il y en avait chez moi. Ma grand-mère en lisait et j'étais attirée par ses couvertures, les éditions du Masque, les fameuses éditions du Masque.
L'odeur
aussi de certains, des vieux livres. Et alors quand je m'en achetais avec mon argent de poche, c'était une nouvelle odeur et j'étais absolument fascinée.
Sur des blogs, on peut lire ceci : un coup de moins bien. Un Agatha, et ça repart. Dark Book, sur un blog, qui écrit « Quand ça ne va pas, qu'on traverse une période noire, un seul remède dans toute la littérature, Agatha Christie. » Et je cite la journaliste et écrivaine Sophie Fontanelle « Quand je n'ai pas le moral, je me fais un week-end Agatha Christie, je ne vois plus personne, ça m'apaise incroyablement, je ne sais pas pourquoi. » Violaine Chivot.
C'est un peu les codes du cozy crime, c'est-à-dire que c'est une lecture qui est divertissante, qui est réconfortante aussi parce que le lecteur a vraiment une part entière dans la lecture et dans ce jeu que Agatha Christie crée avec lui. Et puis tout le monde peut participer, peut essayer de deviner la résolution de l'intrigue. Donc ça, c'est une lecture qui est accessible à tous.
Rappelez ce qu'est le cozy crime.
Le cozy crime, c'est effectivement ces romans policiers qui ne sont pas sanglants, on est loin du thriller. On a des enquêtes qui souvent sont menée plutôt par d'ailleurs des personnes lambda hein, comme Miss Marple et dont on a la résolution à la fin et le lecteur peut essayer de deviner tout au long quel est le meurtrier, le coupable.
François Rivière, racontez-nous votre plaisir de lire Agatha Christie.
Le plaisir de lire Agatha Christie, moi, il m'est venu quand j'avais 9 ans et qu'une amie de ma mère m'a donné d'ailleurs le premier roman qui devait être Le Meurtre de Roger Ackroyd, d'ailleurs, je crois. Mais longtemps après, j'ai découvert quelque chose en lisant, je crois, les carnets, en fait, d'Agatha Christie qu'on a retrouvés il y a pas très longtemps, où elle note quelque part que elle-même, quand elle imagine une intrigue, elle ne sait pas exactement à quel moment va apparaître le coupable. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas elle-même, elle se promène elle-même dans son intrigue, et du coup, c'est normal que le lecteur, lui aussi, divague un peu, cherche, etc., elle joue. Enfin, c'est vraiment un jeu qu'elle mène, qu'elle-même a vécu avant le lecteur. Et du coup, moi, je comprends mieux pourquoi, enfant, on peut, parce que c'est une lecture d'enfance, hein, finalement, Agatha Christie. On commence très tôt à lire ce genre de roman, et puis on continue encore longtemps après.
La maison biscornue, hein, Sonia Fairchild, quand on est enfant.
Ah oui, alors non, il est terrifiant celui-là. Moi, j'ai vraiment été fascinée et j'en ai ressenti l'horreur. Parce que, ouais, par ailleurs, Cozy Crime, je veux bien, mais elle sait quand même des choses horribles qu'elle raconte.
Mais elle ne raconte jamais de façon horrible les crimes en eux-mêmes. C'est pas gore.
C'est pas du tout gore. Ça n'est pas... Il n'y a pas d'images sanglantes impressionnantes qui nous restent en tête. En revanche, elle parle du fond de la nature humaine et elle n'est pas très positive.
Marie-Hélène Bellac, sur votre plaisir de lire Agatha Christie.
Alors moi, je dois dire que j'ai lu Agatha Christie assez tard, finalement. Et ce que je trouve extraordinaire dans Agatha Christie, c'est que finalement, il y a plusieurs niveaux de lecture. Alors, la première fois qu'on prend un ouvrage, effectivement, on cherche. Et puis bon, elle a toujours, je pense au Vallon, qui pour moi, un de mes ouvrages préférés. Je fais pas dire que pour nos auditeurs... je le raconte pas. Mais enfin, finalement, le meurtrier ou la meurtrière, qui semblait évident, puis pendant tout le livre, finalement, c'est plus lui, puis on découvre que c'est lui à la fin. Bon, donc, il y a cet aspect. Mais après, il y a un autre aspect. Moi, je trouve que plus on creuse, plus il y a deux, trois, quatre lectures d'Agatha, justement, où on arrive à une lecture plus psychologique. Où on est moins intéressé par l'énigme elle-même que par le fond de ce que ça révèle. Et c'est très profond, très profond.
Ah oui, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'elle connaissait extraordinairement bien la nature humaine. C'est ce que dit une de ses biographes, Laura Thompson. Elle connaissait les gens. Alors elle était à bonne école parce que donc sa mère était très sensible et ses grand-mères, elle avait plusieurs grand-mères qui présageaient toujours le pire.
La grand-tante d'Agatha Christie notamment.
Oui, elle grand-tante et grand-mère qui jouaient toutes les deux un rôle très fort auprès d'elle quand elle était enfant. Et qui des dames très bien victoriennes avec de grandes manières, mais qui disaient toujours des choses affreuses et qui se révélaient toujours vraies, écrit Agatha Christie.
Bonjour Christine Appelé-Douel.
Bonjour Ali.
Journaliste à Psychologie Magazine, je crois savoir que la lecture d'Agatha Christie vous fait du bien en ce moment. Expliquez-nous pourquoi.
Ah oui, la lecture d'Agatha Christie, c'est un recours, hein, c'est un recours. C'est ce que j'appelle de la littérature de réconfort, hein, comme il y a des nourritures de réconfort, voilà. Vous l'avez dit, quand ça ne va pas, Agatha Christie, c'est vraiment, on peut se tourner vers elle. Et peut-être est-ce parce que c'est vers des choses qu'on connaît, des choses qui sont bien circonscrites. Vous avez dit, c'est une littérature où l'horreur n'apparaît pas de manière évidente, c'est beaucoup plus subtil, les cadavres sont bien peignés. Et puis, il y a des figures archétypiques qui sont celles de Miss Marple et de Poirot, qu'on retrouve dans la plupart des ouvrages. Et donc, ce sont des points de repère. Et on replonge dans une atmosphère dont on connaît les codes et qui, finalement, est extrêmement réconfortante et rassurante. Et puis, alors, il y a cette Angleterre aussi, des années 20, cette Angleterre jolie, bien peignée, avec un thé très poli. Et tout ça fait que c'est une source de réconfort. En fait, Agatha Christie, c'est un pays étranger qu'on connaît bien.
Vous restez avec nous, hein, Christine Appelé-Douel. À titre personnel, moi, ce que j'aime chez Agatha Christie, c'est le huis clos. Le huis clos très présent dans son œuvre, Violaine Chivot. Je cite Boileau-Narcejac. On y retrouve donc chez Agatha Christie un procédé qui consiste à jeter la suspicion sur une petite communauté dont, par exemple, Miss Marple étudiera chaque membre à l'occasion de mains bavardages. Et le huis clos, on le retrouve notamment aussi dans le train, Agatha Christie, qui était était une grande amatrice de trains. C'est un huis clos absolument génial, Violaine Chivot.
Bien sûr, on retrouve le huis clos dans des titres très connus d'Agatha Christie, Le crime de l'Orient Express, et bien sûr, évidemment, le plus connu de tous, Ils étaient 10, qui se passe quand même sur une île déserte. Et voilà.
L'île, c'est un huis clos, et Agatha Christie a su admirablement adapter le récit insulaire anglais à la Stevenson, hein, François Rivière. Hein.
Oui, elle était finalement, elle n'a rien inventé d'une certaine manière, mais elle a adapté quelque chose qui existait déjà, et elle en a fait son bien, quoi. Et mais on parle du train, par exemple. Moi, celui que je préfère, le c'est pas le Orient Express, c'est le train de 16h50, oui. Dans lequel, depuis un train qui circule le long d'une voie, enfin le long d'un autre train, une femme, une amie de Miss Marple. Aperçoit quelqu'un qui est en train d'assassiner un homme qui est en train d'assassiner une femme, et on va bien après, Miss Marple elle-même va mener l'enquête, et pour reconnaître l'assassin, il va falloir qu'elle le voie de dos. Ça, c'est ce genre de truc qu'Agatha Christie faisait très très bien, c'est-à-dire finalement prendre en main la vie quotidienne des gens, ne pas créer quelque chose de complètement invraisemblable, d'où le fait qu'effectivement elle s'intéressait à des gens de tous les jours qu'on rencontre, qu'on voit tous les jours autour de soi, quoi.
Rappelez le titre.
Le train de 16h50, qui est un de ses plus beaux romans, qui a été adapté au cinéma, d'ailleurs avec une actrice assez amusante, une actrice anglaise qui s'appelait Margaret Rutherford, qui a joué dans plusieurs films tirés des enquêtes de Miss Marple.
Alors on continue à explorer le plaisir de lire Agatha Christie, juste après Serge Gainsbourg, le point sonore des Lilas.
Je suis le point sonore des Lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Serge Gainsbourg, le poinçonneur des Lilas.
J'ai pris le parti de vous faire confiance.
Grand bien vous fasse.
Nous devons nous associer pour démêler cette affaire et au plus vite.
Ali Rebbi.
Allez, je vous écoute.
Sur France Inter.
10h30, on s'intéresse ce matin au plaisir de lire Agatha Christie. Pourquoi aimez-vous lire Hercule Poirot, Miss Marple? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000, sans oublier de réagir sur l'appli France Inter.
Tiens, tiens, tiens.
Vous avez un indice?
Oh, je pense que c'est très simple. Vous voyez, Madame Doyle, avant de mourir,
a voulu identifier le meurtrier. Pour nous, elle a eu l'idée de tremper son doigt dans son propre sang. Elle a écrit un J sur le mur. Jacqueline.
Oh, ce que vous dites là est absurde. Cette femme est morte sur le coup.
Vous croyez?
Eh bien, elle n'a pas eu le temps d'écrire avec les doigts sur le mur et avec...
Non,
le...
elle...
C'est une plaisanterie.
Oui, oh, ce n'était pas bien méchant, mais je vous concède que c'était de très mauvais goût. Il n'en reste pas moins que ce J est sur le mur et qu'il nous faut maintenant expliquer pourquoi.
Extrait de Mort sur le Nil en 1978 avec Peter Ustinov. Alors, ce qui est passionnant dans le roman à énigmes chez Agatha Christie, c'est le décalage entre la réalité et les apparences. Comme le rappelle le magazine littéraire en 1968, c'est toujours le lord conservateur, le pasteur charitable ou la jeune fille candide qui ont exécuté sournoisement, consciencieusement et sans hésitation la vieille tante dont l'héritage se fait attendre. Chez Agatha Christie, Sonia Ferchak, tout le monde a quelque chose à cacher. Elle construit ses romans sur un principe de dissimulation générale. Hein. Je rappelle que vous publiez La vérité tue, Agatha Christie et la famille.
Oui, ça n'est pas uniquement dans les romans d'Agatha Christie bien que sûr. Tout le monde a quelque chose à cacher, c'est dans la vie. Et en fait, Agatha Christie le révèle. C'est-à-dire qu'elle montre que des enfants au premier ministre, des gens bien sous tout rapport, tout le monde a quelque chose à cacher. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, en ouvrant une enquête, parce qu'il faut bien ouvrir une enquête quand il y a un cadavre, eh bien... ça donne à voir tous les misérables petits secrets des protagonistes.
Alors ce sont toujours les mêmes motivations de crime, ce sont toujours des passions tristes, pour parler comme Spinoza, l'envie, le désir de vengeance, l'avidité.
Oui, alors ce qu'on voit en fait dans ces romans, alors c'est ce à quoi je me suis attachée, c'est qu'en fait j'ai tout relu, les 66 romans énigmes, en m'attachant non pas, je me suis dégagée du meurtre et j'ai regardé toutes les autres petites vilainies en fait. Et effectivement c'est là où elle est incroyable et c'est-à-dire qu'elle parle de la jalousie, de l'envie, de l'humiliation, des spoliations, des mensonges,
de la tromperies,
de la domination. Moi, c'est ma théorie, c'est que si on la lit encore aujourd'hui, alors qu'elle parle d'un monde qui est complètement révolu, jugé même archaïque, en fait, c'est qu'elle annonce la fin des dominations. Parce que dans les romans d'Agatha Christie, on sait la vérité. Et la vérité, c'est qu'il y a des dominations, y compris dans les familles.
Violaine Chivot, directrice éditoriale des éditions du Masque.
Ce que je trouve intéressant aussi avec Agatha Christie, c'est que en fait les hommes sont aussi fréquemment victimes que les femmes, et les femmes sont aussi fréquemment meurtrières finalement que les hommes, donc c'est pas forcément réaliste, mais c'est assez intéressant. Et puis pour rebondir sur ce que vous disiez, je trouve aussi que le personnage de Miss Marple par exemple, c'est un personnage qui est très intéressant parce que en fait elle a une connaissance de la sphère domestique, des relations humaines, elle a une forte intuition, donc c'est un personnage féminin fort, et ça c'est vrai que ça fait du bien.
François Rivière, l'auteur d'Agatha, es-tu là?
Oui, on n'a pas mis en scène avec Nicolas Perge Miss Marple, mais on a mis en scène, au contraire, un confrère d'Agatha Christie, le grand, l'indépassable
Conan Doyle.
Arthur Conan Doyle, qui lui aussi, alors qui est lui responsable de, alors peut-être de ce qu'on peut considérer comme le roman policier archaïque, même si c'est le modèle absolu de la fiction d'énigmes. Mais pour en revenir à Miss Marple, oui, elle vit dans un village, et elle connaît le monde entier est dans ce village en fait, c'est-à-dire que elle connaît les travers de tous les gens du village, elle connaît leur passé, etc. Et elle peut du coup deviner parfaitement qui a tué qui. Voilà.
Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'en fait, elle ne s'attendait pas, Agatha Christie, à ce que Miss Marple ait un tel succès. Et je pense, alors je ne sais pas si elle était un peu lassée à un moment donné de la prétention de Hercule Poirot, mais c'est vrai que je crois qu'elle est très attachée à cette figure féminine. Et voilà, j'aime beaucoup ce personnage de Miss Marple.
Oui, Jane Marple, Agatha Christie pensait à sa grand-mère en fait en la créant. Juste pour rebondir ce que disait François Rivière, la différence entre Conan Doyle, enfin, entre Sherlock Holmes et Jane Marple et Hercule Poirot, c'est que Sherlock Holmes il dit comment regarder le monde par le sens du détail, et Agatha Christie elle dit ce qu'il faut y voir, la noirceur du monde.
Quelle est la conception du mal d'ailleurs chez Agatha Christie? Il y a un des personnages qui dit à Hercule Poirot, tout le monde est méchant.
Oui, alors en fait, elle parle vraiment, c'est-à-dire qu'elle regarde autour d'elle, et alors c'est ma grande théorie, en fait elle parle de la famille, c'est-à-dire que le meurtre cache, donc il y a plus, comme vous l'avez dit, plus de 50 romans qui parlent en fait de crimes familiaux ou qui sont mis en scène dans des familles, et donc le meurtre cache le véritable sujet de l'œuvre, qui est la famille. Et en même temps, à l'intérieur des narrations, parce que elle montre que la famille, en fait, n'aime pas la vérité. C'est dur de dire la vérité en famille, parce que justement, il faut révéler tous les petits secrets. Or, quand il y a un cadavre, il faut bien en parler.
Marie-Hélène Bellac, oui. Biographe d'Agatha Christie.
Oui, je voulais dire en fait deux choses à travers tout ce qu'on vient de dire ici. D'abord, il y a quand même ce livre que moi je trouve extraordinaire, qui est Hercule Poirot quitte la scène, qui était ce livre qu'elle a écrit pendant la guerre, qu'elle a mis au coffre et qui devait servir d'assurance-vie en quelque sorte après sa mort à sa fille. Et puis en 1975, elle a accepté de le sortir et de le publier avec l'aval de Rosalinde, parce que l'éditeur n'avait plus rien à se mettre sous la dent, hein, soyons clairs. Et dans ce livre, elle analyse le meurtrier parfait. Elle a trouvé le meurtrier parfait, c'est-à-dire celui qui réussit en fait à tuer par personne interposée. Et elle explique que c'est très facile parce que chacun de nous, en fait, est un meurtrier en puissance. Et que du coup, il suffit de le pousser. Et c'est comme ça que Poirot va quitter la scène après avoir fait justice. Il se fait justicier parce que la justice légale ne peut pas agir. Et puis, si vous permettez, je voudrais dire une deuxième chose, je voudrais qu'on la dise à un moment dans l'émission. On parle beaucoup des romans d'Agatha. Mais vous publiez, vous, une série de nouvelles. Les nouvelles sont au moins aussi intéressantes. Et dedans, on y voit la noirceur du monde de la famille, etc. On y voit aussi les problèmes d'Agatha, parce que Agatha, qui était tellement soucieuse de cacher sa vie privée, en fait, elle a mis énormément d'elle-même dans son œuvre. Voilà,
Violaine Chivot, vous publiez Sous la glace, 12 petits meurtres à lire au coin du feu aux éditions du Masque.
Exactement, c'est un recueil qui est un recueil thématique qui rassemble des nouvelles qui se déroulent pendant la période hivernale, donc c'est parfait pour les fêtes.
Sonia Fairchak.
Oui, juste pour rebondir sur ce que dit Marie-Hélène Bellac, c'est que quand elle dit que chacun est un meurtrier en puissance, elle sépare, et c'est ça qui rend ses intrigues tellement extraordinaire, elle sépare les intentions et les actes. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut avoir l'air violent, en fait, on va surtout pas divulguer chez les intrigues, mais certains actes de violence, en fait, sont tout à fait consentis et perpétrés à dessein, et les intentions malveillantes sont cachées. Et c'est là où elle parle des familles et de l'inévitable duplicité. Donc, en fait, je pense qu'elle nous tend un miroir dans lequel on ne voit aucun reflet de prime abord.
Elle ne sacralise jamais les liens familiaux. Banalité du mal entre proches.
Ah oui, alors si on regarde, en fait, si on fait des filiations de ce meurtrier, c'est absolument épouvantable. Les enfants tuent leurs parents, les frères et sœurs s'entretuent, les cousins, les cousines, évidemment les époux. Et c'est tout à fait juste autant de meurtrières que de meurtriers. Les petites filles tuent leur grand-père. C'est épouvantable. Elle n'épargne personne.
Et les maisons sont souvent au cœur des héritages, des disputes familiales qui peuvent mener au meurtre, au crime, les maisons qui suscitent beaucoup, beaucoup de passion. Hein.
Ah oui,
alors qu'elle a eu une enfance rêvée dans son manoir de Torquay, hein. Ce fut un paradis, un Éden. Hein.
Mais justement, elle adorait Ashfield, ouais. C'était vraiment son monde, c'est là où effectivement elle a inventé ses premières histoires, c'était un endroit merveilleux, elle a possédé plus de 8 maisons juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Elle adorait les maisons, elle les traite comme des personnages dans ses romans. Et les maisons sont duplices, c'est-à-dire qu'à la fois elles cachent et elles révèlent, elles protègent et elles détruisent. Ça qui est passionnant, il y a toujours un double sens.
Et chez elle, ce sont les foyers qui se révèlent problématiques, pas les maisons elles-mêmes.
Non, la maison, elle révèle. Mais c'est au sein des maisons que les gens éventuellement se nuisent.
Oui, je peux dire quelque chose à propos des maisons dans l'Arlequin mort, qui est donc une nouvelle qui met en scène Harlequin, Harlequin. En fait, ce qui va être le début qui va permettre de résoudre l'énigme, c'est justement que ça se passe dans un salon d'hiver, ce carrelage, donc que Monsieur Waterthwaite reconnaît, et c'est le lieu qui va être le départ, le point de départ de la recherche et de la résolution finalement du crime.
Sonia Fairchak, vous écrivez qu'en faisant survenir le crime dans une maison, Agatha Christie met en scène un fantasme d'horreur absolue. Où sur Terre trouver refuge, si ce n'est chez soi? Le foyer, c'est le lieu où l'intrusion est la plus douloureusement vécue. Hein.
Bah oui, parce que normalement, le foyer, c'est le lieu de la sécurité. Il y a un très beau texte de Bachelard, Poétique de l'espace. Oui, normalement, on se sent bien chez soi. Or, et c'est là aussi où elle anticipe tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on voit aujourd'hui révélé sur les violences familiales, c'est que j'entendais il n'y a pas longtemps sur une radio, la famille, c'est le lieu le plus dangereux. Parce que justement, on s'attend pas à ce que le mal surgisse là. Or, elle, elle révèle la malignité au sein des maisons, dans les foyers.
François Rivière ?
Oui, mais je crois qu'elle aimait beaucoup Shakespeare. Elle l'a d'ailleurs dit à maintes reprises. Et elle emmenait son petit-fils, notamment... voir des pièces de Shakespeare, et le petit garçon lui disait, mais au fond, c'est comme dans les films policiers, quoi. Les gens s'entretuent, et dans Shakespeare, on s'entretue quand même beaucoup en famille. Donc, au fond, elle a pas inventé grand chose, hein. Elle a juste fait passer le schéma des grandes pièces de Shakespeare à un cadre familier, finalement.
Oui, et puis ça se passe pas chez les rois, chez les princes, ça se passe chez tout le monde, justement. Mmh. Et une chose que je trouve très forte, on parlait tout à l'heure du fait que le lecteur, vous disiez, Violaine, est dans la même position que le détective et peut chercher l'énigme, etc., qu'il y a un tout petit nombre de suspects. En fait, toutes les règles du roman policier qui ont été fixées par Van Dien en 1920, qui sont des règles formelles, c'est-à-dire que le roman policier, durant l'âge d'or, est un jeu de l'esprit, comme les mots croisés. Et donc, toutes ces règles, elle les intègre dans un cadre où elles sont légitimes sur le fond, dans le cadre familial. C'est-à-dire des maisons, un lieu restreint, un nombre réduit de suspects, une famille. Et c'est là où elle nous parle de nous, où elle nous tend un miroir.
Christina Pelledouelle, journaliste à Psychologie Magazine.
Oui, je voulais juste faire une petite remarque à propos de ce que vous venez de dire sur la famille, les lieux, etc. Ce qui est aussi très intéressant, je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on aime tellement lire et relire Agatha Christie, c'est que il y a cette explosion, la violence, le cadavre, je pense à Meurtre dans la bibliothèque qui est un de mes favoris. Il se passe quelque chose d'épouvantable, il y a une effraction, mais après, à la fin du roman, une fois que l'énigme est résolue, que le coupable ou la coupable a été confondu, l'ordre revient. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de, vous disiez, les maisons sont des lieux angoissants dans Agatha Christie. Oui et non, c'est aussi les lieux où reviennent l'ordre, la paix, la tranquillité. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on suppose à la fin du livre. Mais il y a des personnages, donc Miss Marple et Hercule Poirot, qui sont là aussi pour assurer cette continuité. C'est-à-dire que la société n'est pas ébranlée par cette violence. Ça n'a lieu, en effet, comme le dit Sonia, que dans le cadre, quasiment que dans le cadre familial et familier.
Sonia Ferchak.
Oui, pour rebondir là-dessus, c'est la vérité qui émerge. Parce que parfois, l'ordre va à l'encontre de la vérité. Il y a 5 romans qui sont extrêmement intéressants, dont La Dernière Énigme, Témoin Indésirable, etc. Il y en a 5 qui sont des enquêtes après coup. Mais ce ne sont pas des cold cases. Ce sont des enquêtes résolues, avec des assassins qui sont morts et ça satisfait tout le monde. Et en fait, Jane Marple ou Poirot donnent un grand pied dans la fourmilière en disant « mais c'est pas du tout ce que vous pensez ». Et ils bousculent l'ordre établi, en tout cas l'ordre familial.
Tiens, à propos de résolution, d'où vient ce plaisir de la résolution, Violaine Chivot
Eh ben, je pense que comme tout le monde, on a envie de savoir la vérité, puis on a envie de jouer aux apprentis détectives, en fait. Mmh. C'est ça aussi le cozy crime, c'est qu'on peut tous être des détectives à notre façon.
Mmh. François Rivière.
Oui, on a envie de se rassurer, mais faut pas oublier qu'Agatha Christie a quand même publié un roman qui s'intitule Némésis, donc la vengeance, et qu'elle se demandait un peu si la justice, la grande justice, était aussi juste que ça, quoi. C'est-à-dire que quelquefois, on a besoin, on a envie de se venger soi-même, et elle a pas eu peur, d'ailleurs, de pratiquer dans ses livres cette espèce d'instrumentalisation, quoi, de la vengeance humaine.
Et Flora nous a écrit « Découvert quand j'étais en 5e, les livres d'Agatha Christie sont mes doudous. Je les lis et relis quand je suis fatiguée ou triste, un peu comme vous, Sonia Ferchak. » Et on écoute Isabelle qui nous a laissé une note vocale.
« Bonjour, grand bien vous fasse. J'ai commencé à lire Agatha Christie à 14 ans. Je les ai tous lus. Je suis une fan absolue de David Suchet, que je trouve extraordinaire dans le rôle de Poirot. Je rêve de naviguer sur le bateau en Égypte et de monter dans l'Orient Express. Donc voilà, une fan absolue et je les relis. Et je re-regarde les séries à Poirot, même si je les connais par cœur. Voilà. »
Et bonjour Paulette, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez
écoutez, moi je ne vous ferai pas allô.
Oui, oui.
Je ne vous ferai pas un discours grandiloquent. Oui. Je ne suis pas avocate, je ne plaide pas. Moi je suis une petite institutrice anti-régime qui a vécu dans un milieu modeste, que Agatha Christie a fait rêver, parce que moi, bon, lui, il y avait des meurtres, des assassinats, on tuait son oncle, son grand-père. Moi, ce que je regardais, c'était le milieu où ces gens-là vivaient. la bourgeoisie, des beaux châteaux, des voyages en Égypte, etc. Moi, Agatha Christie, elle m'a fait rêver. C'était peut-être une histoire sordide, mais moi, je ne voyais pas le côté sordide de l'histoire. Je voyais le côté, cette bourgeoisie et tout, qui finalement, nous, pour des petites gens comme nous, eh ben, ils commettaient des meurtres pour de l'argent ou par jalousie. Et moi, je vais vous dire, ça me ravissait. Et je ne suis jamais lassée, j'ai 87 ans, je ne suis jamais lassée d'Agatha Christie.
Et vous avez...
Je regarde les séries d'Hercule Poirot et Miss Marple sur la 10, alors que je les connais par cœur, je les ai déjà vues, ben je les regarde de nouveau.
Et vous avez, transmis cette passion à vos petits-enfants?
Ah oui, à ma fille d'abord, j'ai eu qu'une seule fille, et ensuite mes petits-enfants, et mes neveux et nièces, quand ils venaient à la maison, qu'est-ce qu'ils prenaient? Tata Poète, Agatha Christie. Ah bah oui, d'accord, tu lis. Et puis un beau jour, j'ai fini par les faire cadeau. Alors je me rassasie d'Agatha Christie à la télé.
Tiens, Paulette, je crois que vous aimeriez beaucoup la réédition un peu vintage de certains romans, de deux romans d'Agatha Christie, Violaine Chimou, c'est aux éditions du Masque.
Ah oui, il faut leur offrir absolument ce qu'on appelle des facsimilés. Ce sont des éditions un peu vintage, luxe, mais pas cher du tout, avec une couverture illustrée et qui reprennent des grands classiques d'Agatha Christie. On a Le couteau sur la nuque, bien sûr, qui est une enquête d'Hercule Poirot qui est absolument géniale. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Agatha Christie a mis énormément de temps à le rédiger en fait, et elle a continué de l'écrire quand elle avait rejoint son mari qui était archéologue. Elle l'avait rejoint sur un chantier de fouilles, et en fait elle a écrit pendant tellement de temps qu'en fait ils ont fini par renommer un squelette du nom de la victime du roman, Lord Edgware. Donc je trouve ça génial. Et puis le deuxième, c'est évidemment Le crime est notre affaire, que tout le monde connaît, donc il faut absolument le lire ou le relire.
Deux très belles éditions vintage. Merci beaucoup Paulette de nous avoir appelé.
Je n'écoute que France Inter.
Vous avez bien raison, Paulette. Merci, Paulette. Dans quelques instants, on s'intéresse au plaisir du style des romans d'Agatha Christie et des nouvelles aussi. Marie-Hélène Bellac, vous adorez les nouvelles, vous nous en parlerez tout à l'heure. Juste après avoir écouté Jungle Talk About It. Jungle, interprété Talk About It.
Ça continue ces petites soirées meurtres?
France Inter.
Drôle de façon de s'amuser.
Grand bien vous fasse.
J'ai dû arrêter, faute de demande.
Ali Rebéi.
Mesdames et messieurs, permettez-moi de... Il semblerait que notre malchance ait empiré, c'est-à-dire...
Un passager est mort dans ce train. Monsieur Ratchett, il a été assassiné.
Seigneur, un meurtre ici.
Que se passe-t-il, voyons ?
Puisque nous sommes bloqués par la neige, j'ai décidé de mener l'enquête et de trouver le coupable pour mon ami, Monsieur Book.
Et pourquoi faux ?
Je m'appelle Hercule Poirot, et je suis probablement le plus grand détective du monde.
Extrait du crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh en 2017, et nous accueillons Éric Libiot, bonjour.
Bonjour Ali.
Chroniqueur à lire le magazine littéraire, spécialiste du roman noir. Pourquoi aimez-vous lire Agatha Christie, mon cher Éric ?
Eh bien d'accord, d'abord parce que c'était une écrivaine, malgré le fait qu'elle ait été lue sans doute par la terre entière, elle était assez sous-estimée, en tout cas par la critique. Dans une certaine mesure, c'est en fait ce qui est arrivé à Simenon et beaucoup aux écrivains de romans policiers, alors que si on regarde, enfin vos invités l'ont dit mieux que moi, si on regarde, elle a absolument tout inventé dans le domaine de l'énigme, le parangon, l'acmé de son œuvre, c'est quand même le meurtre de Roger Ackroyd, hein. Alors je ne révélerai pas le nom d'assassin pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais arriver à ce point-là d'inventivité, c'est absolument extraordinaire. Il y en a qu'un qui a presque fait mieux, c'est Umberto Eco dans Le Nom de la Rose. À mon avis, c'était un hommage à Agatha Christie. Mais au-delà de ces constructions d'énigmes, ce qu'il y a de formidable, c'est que c'était une conteuse, et puis, mine de rien, elle racontait son époque, et c'est un peu le propre des romans policiers, hein. Vous parliez tout à l'heure des faux-semblants, de la vérité. Il y a un roman que je trouve absolument extraordinaire qui s'appelle L'heure zéro. Alors l'heure zéro, c'est l'heure du crime, et c'est pas tant ce qui intéressait Agatha Christie que tout ce qui se passait avant. Elle décrivait en fait qu'elle explique que tout le monde potentiellement est assassin de la personne qui est morte dans ce roman, hein, Lady Trissalian. Et puis en plus, ce que je trouve formidable chez elle, c'est en fait elle met en scène le lecteur, un petit peu comme Hitchcock mettait en scène le spectateur. Et tout à l'heure, François Rivière faisait allusion à Margaret Rutherford qui jouait Miss Marple, et Hitchcock a aussi mis en scène Margaret Rutherford dans Une femme disparaît, qui était d'ailleurs un film très Agatha Christie. Et cette façon de mettre en scène le spectateur, c'est à la fois le réconforter, le mettre dans un écrin qu'il connaît, et à la fois le déstabiliser, parce qu'elle le mène systématiquement là où le lecteur, fait le lapsus, ne s'attend pas. Et ce qui est formidable avec elle, voilà, c'est qu'elle se renouvelait systématiquement, à la fois dans la forme et dans le fond.
François Rivière.
Oui, mais la forme, c'est de la simplicité absolue. C'est-à-dire que c'est, il y a beaucoup de dialogues, il y a très peu de descriptions. C'est ce qui fait que tout le monde peut lire, si je puis dire, Agatha Christie. Alors que le fond, il y a une sophistication très grande des structures, de la structure même du récit, qui se modifie à chaque fois, puisqu'elle a épuisé presque toutes les combinatoires du roman d'énigmes, un livre après l'autre, avec cette excellente idée de changer de décor à chaque fois, pratiquement. C'est-à-dire que on parle toujours du manoir anglais, mais en fait, elle n'a pas utilisé tant que ça, alors qu'elle a promené son lecteur dans le monde entier, et on retient beaucoup l'Égypte, la Mésopotamie, etc. Mais en fait, elle a réussi à mêler tout ça très bien, c'est-à-dire à la fois le fond et la forme.
Qu'est-ce que vous aimez dans le style d'Agatha Christie ? À titre personnel, moi, c'est aussi son humour, l'humour très présent chez elle.
Elle a un style très simple, oui, effectivement, avec l'humour qu'ont beaucoup les Anglais, en fait. Hein, c'est l'humour anglais, enfin, de base. Elle aimait beaucoup un grand humoriste qui s'appelait P.J. Woodhouse, auteur de Jeeves, et d'ailleurs, elle lui a dédié un livre, un roman, lui-même lui en dédié un aussi, parce qu'elle trouvait que, justement, on pouvait pas parler de choses sérieuses, entre guillemets, c'est-à-dire parler de crimes, parler de choses horribles, sans faire un peu d'humour, c'était pas anglais, quoi.
Marie-Hélène Bellac.
Oui, mais elle-même, elle faisait de l'humour sur sa situation difficile. Elle s'appelait, elle se disait elle-même l'esclave salariée, parce qu'elle avait fait un montage financier qui lui permettait d'échapper en partie au fisc, qui a été pour elle l'horreur toute sa vie. Mais en fait, elle estimait qu'elle était l'esclave de sa fille, parce qu'elle avait des relations conflictuelles avec sa fille. En fait, Agatha n'a pas eu une vie si facile. Elle disait d'ailleurs, elle parlait du dur métier de vivre. Donc, elle a décidé de mener sa vie, de garder son second mari, qui était plus jeune qu'elle, qu'elle a beaucoup financé, hein, soyons clairs, et jusqu'au bout, même s'il avait une maîtresse. Et donc, elle-même se trouvait dans cette situation, elle a voulu la transcender. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de lire les archives, ses lettres, notamment à son homme d'affaires, parce qu'on sent cet humour et ces formules très, très dures, hein, qu'elle utilise.
Sonia Fairchak.
Et justement, l'humour, c'est dans le rapport au langage, et elle interroge le langage. C'est-à-dire qu'elle a un style très, très simple, mais rentrer dans un Agatha Christie, c'est s'exposer à être dupé par les mots.
Style simple, mais essayer de faire du Agatha Christie. Tiens, Violaine Chivaux, éditions du Masque, vous avez entrepris un vaste travail de retraduction de ces œuvres. Hein.
Alors, en fait, on a effectué un grand travail de révision des traductions, qui s'achève d'ailleurs en 2022 avec les derniers titres en février prochain.
Pourquoi
Parce que c'est, en fait, Christie, c'est le premier titre qui est paru aux éditions du Masque en 1927, c'est Le meurtre de Roger Ackroyd. Donc vous voyez, ça fait très longtemps qu'on publie cette romancière. Et ça signifie aussi qu'on a énormément de livres dans le fond du masque, donc des traductions qui parfois datent un peu, sont un peu vieillottes, donc on les révise. Et aujourd'hui, on est très 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 contente de pouvoir dire qu'effectivement, au Masque, on a toutes les révisions très vite révisées. Voilà.
Éric Liviaud ?
Non, moi je voulais juste donner un petit... c'est difficile de dévoiler les noms assassins, mais je voulais donner juste un petit truc pour les lecteurs d'Agatha Christie, c'est que si vous faites une liste des meurtriers ou meurtrières potentiels, la première personne que vous barrez, dont vous barrez le nom en disant c'est sûrement pas elle, c'est sûrement pas lui, en général c'est elle ou lui.
Merci Éric Liviaud.
Mais c'est un moyen de... C'est plus intelligent que Poirot, c'est pas idiot.
Tiens, pour terminer, quel est le roman, la nouvelle d'Agatha Christie que vous avez envie de conseiller, Marie-Hélène Bellac?
Ah, moi écoutez, j'ai envie de conseiller une nouvelle que je viens de relire là tout dernièrement qui s'appelle Loin de vous ce printemps. En fait, c'est une analyse psychologique. Et c'est là qu'on voit que Agatha, c'est bien autre chose que simplement des romans d'énigmes. C'est une femme qui se trouve perdue dans le désert. Elle revient de Bagdad. Et elle est confrontée à elle-même. Et elle se rend compte, alors qu'elle croyait être la femme parfaite, qu'elle a été une mauvaise épouse, une mère abusive, que son mari ne l'aimait peut-être pas.
Et rappelez le titre.
Ça s'appelle Loin de vous ce printemps.
Sonia Fertchak.
Moi, c'est La maison biscornue, qui est vraiment pour moi un chef-d'œuvre et qui est une vraie tragédie, c'est-à-dire que c'est très triste. Et d'ailleurs, dans l'adaptation qu'on a donnée au cinéma Gilles Paquet-Brenner, on s'attire vraiment vers la tragédie.
François Rivière.
Moi, c'est une nouvelle qui s'intitule Philomèle Cottage, qui est dans le recueil Le mystère de l'Estendel et dans laquelle n'interviennent ni Poirot ni Miss Marple.
Violaine Chivaux.
J'ai envie de citer une nouvelle qui est dans le recueil de nouvelles qu'on sort sous la glace, qui est une nouvelle qui s'appelle La boîte de chocolat, où finalement Poirot fait, pour une des rares fois où il fait un aveu de faiblesse.
Chrissy Lapelle-Edouel.
Alors moi c'est Meurtre dans la bibliothèque, ça ne vous étonnera pas. Et puis La maison biscornue, absolument comme Sonia.
Éric Liviaud.
Bah, Ackroyd, il faut absolument le lire évidemment, mais moi c'est L'heure zéro que je porte très haut.
Le meurtre de Roger Ackroyd. Je partage votre avis, mon cher Éric Liviaud. On peut retrouver toute la bibliographie de nos invités sur l'appli et le site de France Inter. Agatha, es-tu là ? Avec Nicolas Perge et François Rivière, c'est aux éditions du Masque. Marie-Hélène Bellac, Agatha Christie, Les mystères d'une vie, chez Perrin, biographie. Sonia Fertchak, La vérité tue, Agatha Christie et la famille. Et puis Violaine Chivaux, vous publiez un recueil de nouvelles sous la glace. 12 petits meurtres à lire au coin du feu, ça fait du bien. En ce moment, dans un instant, Nagui et sa bande originale. Et demain, on s'intéresse à la liberté avec le mensuel Philosophie Magazine.